Le choc des idées.
Oui, le choc des idées. Très spécial à ce vendredi. Des opinions choc, des opinions qui diffèrent, mais ils font le même job. Ils sont affectés à la couverture du Canadien. Collaborateurs ici à BPM Sport, les deux. Deux gars qui suivent le Canadien pour RDS. Luc Gina, le vétéran, salut, comment ça va?
Ah, ça va bien, content d'être là aujourd'hui, merci.
Content que tu sois là, et pour t'affronter, petite jeunesse, toi, chose. Mais
méchante bon. Jeunesse d'expérience.
Mais Patrick Friolet, salut Pat!
Salut, un jeune vétéran, on va dire ça comme ça.
Un jeune vet. Messieurs...
C'est Luc qui m'a tout montré, en passant.
Ben, ça n'a pas l'air parce que vous n'avez pas toutes les mêmes réponses.
En partant, je ne suis pas de bonne humeur après Pat, fait qu'on va avoir un bon débat.
Ah oui?
Bon.
Ouais, il est à New York. Demain, il n'y a pas de morning skate. S'en va à l'aréna pour un petit brunch. Beau week-end, New York, Boston.
Beau week-end. Peut sortir à soir. Ça va bien. OK. Oui, ils sont pas d'accord. Pas d'accord là-dessus non plus. Sur ça non plus. On part. Question qu'on a posée à tout le monde depuis ce matin. Raphaël Harvey-Pinard va terminer sa remise en forme bientôt. Patrick Laine, s'il se fait pas trop rentrer dedans par Justin Barron, va pouvoir venir bientôt. C'est Yoel Armia et Joshua Roy qui doivent écoper quand ces deux-là seront prêts à revenir au jeu. Absolument pas pantoute. Je commence avec le vétéran. Luc Gina.
Ben, quand FX m'a envoyé les questions, je lui ai répondu en deux temps. Armia ne va pas écoper. Armia, il fait vraiment de la bonne besogne. Il joue à des avantages numériques. En plus, si Kent Hughes a son mot à dire, Armia, il va être joueur autonome à la fin de l'année. Donc, il peut avoir une certaine valeur, c'est pas en écopant puis en allant dans les gradins. En plus, de toute façon, on n'a rien reproché à Armia. Je crois, oui, il va écoper parce que c'est une solution facile. Tu peux l'envoyer dans la Ligue américaine sans qu'il passe par le balotage. Puis, dans ces deux matchs, il ne m'a rien montré. Je ne sais pas qu'il a été décevant, mais il n'a pas été un facteur. Donc, oui, Roy va se faire tasser. Hier, HP, est-ce qu'il va vraiment tasser quelqu'un ou il va venir faire du Pezzetta? Tu sais, RHP, il y a deux ans, il y a eu des bonnes statistiques. Mais l'an passé, on l'aime beaucoup. Il y a de la fougue, il y a de l'émotion, de l'intensité. Mais il y a deux buts en 45 matchs. Ça fait 7 mois qu'il n'a pas joué.
Il joue du game, il en manque 20, il n'y a pas de rythme.
Donc, tu sais, c'est ça, là. Celui qui va arriver et qui va pouvoir tasser quelqu'un, c'est Laine. Et la solution facile, ben oui, c'est Roy. Ça, on a le deuxième trio.
OK, le retour de
Raphaël. On dit deuxième trio, c'est parce que c'est par défaut, là.
C'est parfait. Parce
que ta première, vraiment deuxième trio.
Ta première réponse au choc des idées était tout simplement extraordinaire, rien de moins. Au retour de Raphaël Harvey-Pinard et Patrick Laine, c'est Armia et Roy qui doivent écoper. Absolument. Pas pantoute, Pat Friolet.
Ben, moi, en fait, je suis un peu d'accord avec Luc dans le sens où Armia se retrouve à être un joueur qui va quand même continuer à jouer. Là. Ça, je ne m'attends pas à ce que Armia écope. Là où je pense qu'il y a quelqu'un qui va écoper, c'est clair, c'est Joshua Roy, parce que présentement, on l'utilise à peine en avantage numérique. Puis c'est son pain et son beurre. Mais puis là, il se retrouve dans une situation où on le fait pas briller. Là, Patrick Laine va arriver. Ça va être une autre option de plus qui se retrouve en avantage numérique. Donc, si on est pour utiliser Roy simplement sur un troisième trio, pas lui donner du temps en avantage numérique, ben aussi bien qu'il retrouve sa confiance ou qu'il continue de développer sa confiance du côté du Rocket de Laval, parce que je pense que ça serait pas la meilleure chaise pour lui.
Et Armia, juste parce que c'est pas ton préféré, c'est ça?
Non, mais Armia, je vois pas pourquoi qu'il écoperait. En fait, là, je pense que c'est un joueur utile aux Canadiens. Il fait du très bon travail en désavantage numérique.
Mais c'est ça, Saint-Louis, mais t'as dit absolument à ces Armia et Roy.
Oui, mais c'est parce qu'il y a deux choix de réponse absolument au pas pantoute. Ça sera pas pas pantoute parce que Roy va écoper. Donc, si Roy écope, c'est pas pantoute.
Yeah. Donc, OK, on va te simplifier ça pour toi, Patrick.
On dit absolument la même affaire.
Ouais, on va te simplifier ça, Patrick. On te donnera pas le choix. On va t'appuyer au pied du mur. Nick Suzuki mérite de faire partie de la formation canadienne au tournoi des Quatre Nations avec le début de saison qu'il connaît. Absolument, pas pantoute. Patrick Friolet.
Absolument. Moi, je pense que Nick Suzuki mérite une place parce que c'est un joueur qui est extrêmement fiable dans toutes les situations. Je pense qu'il peut aider le Canada à différents niveaux. C'est sûr que je ne m'attends pas à ce qu'il occupe une chaise sur un des principaux trios offensifs. Mais est-ce que Nick Suzuki pourrait être efficace pour surveiller des joueurs adverses, des joueurs adverses dangereux offensivement? 100%. Je pense que Suzuki a un très bon cerveau. C'est un joueur qui a un bon rythme jusqu'à présent cette année. Même si on en voudrait toujours plus, je pense que Suzuki a une bonne réputation à travers la Ligue, puis je pense qu'il pourrait faire de l'excellent travail.
Bon, la question faisait en sorte qu'il ne pouvait pas se défiler. Nick Suzuki mérite de faire partie de la formation des Canadiennes au tournoi des Quatre Nations avec le début de saison qu'il connaît. Absolument pas pantoute, Luc G.
Pas pantoute. J'aurais pu penser le contraire l'an passé. Il y a peut-être un facteur, là, puis vous ne serez peut-être pas d'accord, qui pourrait, à la fin, pencher pour lui si on hésite entre deux, c'est qu'il va avoir des matchs à Montréal. Quand tu regardes la ligne de centre, Deloge, McKinnon, McDavid, Crosby va être là. Donc, il pourrait peut-être être le quatrième joueur de centre, mais ça va être difficile. Puis, un qui est dans le trouble, là, c'est Connor Bedard. Connor Bedard, il va être là parce qu'on le veut l'an prochain pour les Olympiques, mais il n'y a pas une saison qui mérite. Si on y va cette année, il faut gagner absolument. Connor Bedard n'a pas d'affaires là. J'ai vu, je ne sais pas moi, 4 parties peut-être des Blackhawks, ça me déçoit beaucoup. Donc, tu sais, si tu calcules que Bedard, ils vont le prendre parce qu'il représente le futur du pays. Et puis, il y a un gars aussi qui est plus jeune, qui fait une bonne job, qui est aussi bon que Suzuki, on n'en parle jamais, c'est Seth Jarvis. Donc, je ne sais pas ce que Team Canada va faire, mais s'il faut que je choisisse aujourd'hui, j'espère qu'il va être là, puis ça va être bon pour nous autres, en plus les médias de Montréal. Mais aujourd'hui, je vote là, le 29 novembre, je ne le mets pas dans mon équipe.
OK, il y avait deux questions sur Kirby Doc. C'était polarisant, Kirby Doc. Et vous n'êtes pas d'accord sur les deux, alors j'en ai choisi une des deux, messieurs. Lorsque le Canadien participera aux séries éliminatoires, Kirby Doc sera un joueur qui évoluera sur les deux premiers trios du Canadien. Absolument pas pantoute. On commence avec le vétéran, le patriarche, Luc.
Ce matin, ce que j'aime, c'est que tu ne te mouilles pas.
Ah, ben je peux, mais moi, je suis là pour vous mettre en valeur, mais je peux donner mon opinion. Ça m'arrive ben, de temps en temps.
Mettons, là, y es-tu là, Suzuki, toi, sur l'équipe canadienne?
Je pense que oui, 13e attaquant. Parce que tu as besoin, comme 13e attaquant, de quelqu'un qui est archi polyvalent. Tu as un marqueur, tu as un fabricant de jeu, un centre, un ailier, un gars qui doit couvrir en défense. C'est lui que tu peux plugger partout. Si tu vas chercher, mettons, Barzal, je pense pas que Barzal peut plugger tous les trous comme Nick Suzuki. Et l'autre question était Armia ou Roy qui sort. Je sais pas c'est quel de vous deux, mais Roy sort et Raphaël joue pas tout de suite.
Ben, c'est bon, puis c'est parfait parce que tu es un fin diplomate. En le plaçant 13e, Suzuki, tu donnes pratiquement raison aux deux. Il est là,
mais c'est parce qu'il va être 13 attaquants.
Ben, je pense qu'il me donne quand même un peu plus raison.
Oui, sur celle-là.
Ne vous en pas. Je vous garde tantôt dans le deuxième segment.
Ouais, mais si il est là, il joue pas, ça compte-tu?
Ouais. Ben, il est dans l'équipe. Mais la question, en fait, la question, c'est est-ce qu'il mérite d'être là? La question, c'est pas est-ce qu'il est dans le top 12?
On ne demande pas combien de coups de patin il va donner, là.
Ouais, c'est ça.
Comme souvent aux Olympiques, il était là.
Ouais, c'est ça. Lorsque le Canadien va participer aux séries, Kirby Doc sera un joueur qui évoluera sur les deux premiers trios. Absolument pas pantoute. Patriarche?
Je pensais dire Pat. Pas pantoute. Moi, bon, Kirby Doc, je suis en train de lancer la serviette. Je me demande si ce ne sera pas un Joel Armia 2.0. Je pense qu'on l'a vu trop gros. Même dans les rangs juniors, c'est pas un gars qui a ramassé beaucoup de points. Si les Canadiens participent aux séries cette année, tant mieux. Je pense pas. Mais tu sais, t'as Michael Age qui s'en vient, qui est un centre droitier qui est en train de brûler la NCAA. Fait que là, tu sais, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, tu touches pas à ça. T'as Demidov qui s'en vient. Ouais, c'est un attaquant offensif. Donc, si tu rentres en série puis ton joueur de centre numéro 2, c'est Kirby Doc qui joue au hockey comme cette année, bon, tu vas faire une ronde. Tu t'en gagneras même pas.
Moi, je pense, parce que là, tu veux que je me mouille, je pense que Kirby Doc sera un deuxième centre, puis il sera le Kirby Doc de là, la fin de la dernière saison. Mais je veux pas voler le punch.
Non, on le souhaite tous.
Oui. Moi, j'ai pas abandonné encore. Patriolet, Kirby Doc sera le joueur de deuxième centre ou de top 6 du Canadien quand ils seront en séries éliminatoires. Absolument pas pantoute.
Ben, je vais dire comme toi, Martin. Moi, j'ai pas lancé la serviette encore sur Kirby Doc. Est-ce que c'est décevant ce qu'on voit de lui cette année? Jusqu'à maintenant, c'est clair. Est-ce qu'on pensait que ça arriverait plus vite, qu'il trouve son rythme? Je m'attendais à ça. Mais je pense que Kirby Doc, quand il va retrouver sa confiance, il va continuer de grimper, gagner en confiance. Je pense qu'il y a trop d'outils pour qu'on abandonne sur lui. À mon avis, je pense que c'est un joueur qui est encore, qui va être capable de démontrer ça dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il va le démontrer avec de la constance? Ben ça reste à voir, mais je pense qu'il y a les outils puis il y a le bagage pour être capable de faire ça. Ce sera à lui de le prouver, mais je pense qu'il y a trop de choses qu'on a vues de lui qui nous incitent à se décourager trop rapidement, à mon avis.
Ce que tu dis là, Marc Bergevin tenait le même discours quand il est allé chercher Josh Anderson.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai.
Mais c'est pas le même hockey non. IQ.
Non, c'est clair. C'est clair.
Mais savez-vous quoi, j'adore.
Peut-être que je suis trop positif, mais j'y crois encore. T'sais, c'est un joueur que j'aime beaucoup son style, mais je trouve que présentement, il ne nous montre pas du tout la version du joueur qui est capable d'être. Moi, ce que j'aime de Kirby Dach, c'est un joueur qui fonce en fond de territoire, qui donne des mises en échec, qui a une attitude de guerrier.
Mais il est craintif.
On n'a pas vu ça depuis le début de la saison. C'est ça. On le sent craintif. Peut-être que c'est sa confiance. Peut-être qu'il a peur de se faire mal, mais il y a des choses qu'il ne nous démontre pas dans son jeu. Ça, c'est décevant. Mais je pense qu'il est capable de tourner le coin, à mon avis.
Je trouve ça vraiment cool de vous avoir les deux et d'avoir posé cette question-là, oui. Parce que à l'époque, quand j'allais au vestiaire, surtout dans les entraînements, on a du temps avec les joueurs pour discuter pas mal plus qu'après les matchs. Puis les deux, vous êtes dans le vestiaire. Les deux, vous y parlez à Kirby Dach, le non-verbal, ce qui se dit quand la caméra s'éteint. Et les deux, vous avez quand même pas la même opinion sur le sujet. Je trouve ça tout simplement fantastique. Ça donne comme le droit aux gens qui nous écoutent dans la voiture de dire « Si eux autres sont pas d'accord, pourquoi moi je serais d'accord avec ma femme à côté de moi? » Tu comprends-tu?
Et puis il y a un point que Pat a raison, c'est au niveau de la confiance. Tu parles d'être dans le vestiaire. Kirby Dach, là, tu y parles. Prenons le mardi matin. Dach est sur le quatrième trio, Slavkovski aussi. Je vais voir Slavkovski avec une couple de collègues. Quoi tu t'attends sur le quatrième trio avec Armia puis Dach? Puis là, il a les épaules droites, il parle fort, il répond. Ben, on est gros, on va transporter la rondelle, travailler en fond de territoire. Que je n'ai pas réussi à faire cette année. Puis là, il continue, tu sais, il est en confiance, il a du fun pareil, même si ça va mal. Là, tu parles à Kirby Dach, il chuchote, il a les épaules rentrées, il parle de sa confiance.
C'est un ténébreux.
C'est un ténébreux, mais c'est clair que, tu sais, tu as un gars qui doute un peu comme Armia, il faut tout le temps que tu le flattes puis tu l'encourages, je pense. Je pense qu'il y a plus besoin d'un psychologue que d'un coach d'habileté, Kirby Dach. Ça veut pas, c'est pas négatif, là. C'est pas le seul joueur
non,
comme ça.
Je consulte le psychologue à Dwayne Smith.
Le point que Pat a raison, c'est qu'il est clairement pas en confiance, vraiment pas.
Non,
mais je pense aussi qu'il l'exprime pas de la même façon. T'sais, Slavkovski est un gars tellement dur envers lui-même. Il est très transparent dans sa façon de s'exprimer. Alors que Kirby Dach donne plus l'impression d'un gars qui est allé en arrière du vestiaire, là, qui est allé crier un bon coup, puis qui revient, puis qui s'est comme calmé un peu, on dirait, qui n'a pas voulu dire tout haut ce qu'il pensait. J'ai l'impression que la personnalité est différente, mais je suis d'accord avec toi, Luc, que la confiance qui se dégage n'est pas la même. Ça, c'est clair.
Luc, c'est Guy sur la messagerie texte qui demande « Est-ce que tu es le plus ancien à RDS? »
Ben là, RDS a ouvert le 1er septembre, je suis arrivé à peu près dans la mi-novembre, le 10 novembre, je pense. Pas mal dans les plus anciens, ouais. Et sur le beat aussi, avec Renaud Labois. Ouais, c'est ça. J'ai commencé jeune.
Ah oui, mais t'es encore...
56, là.
Tu es encore magnifique.
Mais le patriarche, ça me shake. Je pensais que ça prenait au moins 70 ans de se faire appeler le patriarche.
Tu sais que...
Ou être bien plissé.
Tu sais que, v'là 10 ans, si tu t'étais perdu en forêt, on aurait dû... Un homme s'est égaré en forêt, si tu avais de l'information, veuillez contacter avec nous au 514. Maintenant, ouais. Si tu te perds, on va dire un quinquagénaire est égaré en forêt.
Stéphane Leroux sort de ce corps. Quand j'ai eu 50 ans, c'est ça qui m'a texté.
Ah, c'est peut-être de lui, je l'ai pogné de bord. Marc Bergevin a fait un excellent travail lors de son règne comme directeur général à Montréal, venant de deux gars qui ont couvert de près les activités de Marc Bergevin. On va commencer avec le genou. Patrick, absolument pas pantoute.
Absolument. Moi, je pense que Marc Bergevin a fait du bon travail, a mené son équipe en série plusieurs fois, d'ailleurs en finale de la Coupe Stanley avant son départ, même si pour certains, là, c'est pas tout à fait le genre de parcours qui compte vraiment, là, parce que c'était la COVID et tout ça.
C'est pas grave, mais c'est le même règlement pour tout le monde.
Ben, c'est ça, exactement. Puis, je pense qu'il a fait des bonnes transactions qui ont fait avancer le club. Puis, j'ai aimé justement l'article de Pierre Lebrun, là, où il résumait certaines choses, puis il parlait des décisions qui ont été prises. Il a pas sacrifié trop souvent son avenir. parce qu'il y avait quand même un noyau de joueurs qui lui permettait d'avancer. Donc, ils ont quand même, dans règle générale, je pense qu'il a fait du bon travail, Marc Bergevin. Évidemment, le choix de Kotkaniemi demeure toujours controversé, mais mis à part ça, je pense qu'il a été un DG qui a fait du bon travail.
Luc, tu vas apprendre qu'à ce segment, on ne peut pas donner deux réponses. Marc Bergevin a fait un excellent travail lors de son règne comme directeur général de 9 ans et demi en plus à Montréal. Absolument pas pantoute.
Je vais aller avec absolument. Les raisons que Pat a expliquées. Tu sais, puis en plus, lui, il n'a pas eu carte blanche, là, propriétaire, de dire on fait maison nette puis on fait une reconstruction. Mm. Puis son fameux reset, tu regardes Pittsburgh, il veut pas sacrifier Malkin, Crosby, le temps, qu'ils se disent on a tout le temps des chances de gagner avec ça. Les Caps avec Ovi, on fait un peu virage jeunesse, mais on est plus en reset avec quoi? Avec Price. Weber, pour ça, je pense qu'on restait en mode reset. Il a fait des bonnes transactions, mais tu sais, ça ne peut pas être un bilan parfait non plus. Un excellent travail, mais tu sais, il a laissé des mauvais contrats parce qu'à la fin, je pense, Marc Bergevin, la lourdeur, la pression, ça fait que les émotions sont embarquées trop. Le mauvais contrat de Gallagher, qui était en larmes, qui nous l'a expliqué. Tu sais, je veux dire, Julien, là, Brisebois, là, et c'est un homme d'affaires, il gère ça comme une business. Stamkos, là, il aurait pu donner une prolongation de contrat, rencontrer les médias en pleurant, puis à dire « je l'aime tellement, c'est, il nous a donné des coupes Stanley, c'est l'âme ». Ben non, il a regardé ça froidement, « salut Stamkos, on va chercher Jake Gunzel ». C'est ce que Marc Bergevin n'a pas été capable de faire. Puis dans les émotions, dans l'amour, il s'est entêté à garder Trevor Timmons. Il a tassé les anciens parce qu'à la fin, il voulait vraiment que ce soit un cercle fermé, un vase clos, personne n'a accès aux joueurs. Donc, il a fait un excellent travail, mais c'est loin d'être parfait.
OK. J'aime ça.
Ouais, finalement, j'ai écouté Luc puis je change ma réponse.
Pas partout.
Non. C'était des
en passant, Pat, là, tu me dois une bière, hein, parce qu'hier, je suis allé au parti de départ de Ben Baudouin. Tu n'étais pas là. Tu es représenté.
J'ai
pas fait ça gratis. Là.
Un gars d'équipe, ça c'est clair. Okay. J'ai envoyé une vidéo de Times Square pour me faire.
Ah, ok, ben c'est correct. Ouais.
Dernière question, messieurs, on s'amuse. FX, il est de même. Quand il voit que vous êtes d'accord sur une question, mais il sait que vous êtes en désaccord avec moi, j'ai même pas besoin de dire jamais dans la préparation. Lorsque le Canadien accédera aux séries l'an prochain ou la saison suivante, Lane Hudson sera le défenseur numéro 1 de l'équipe devant Caden Goulet. Et les deux, vous avez répondu absolument. Faut m'expliquer pourquoi que déjà on oublie que Caden Goulet, quel âge Caden?
22.
Caden a 22. Quand que Madison n'est pas là, c'est lui qui joue contre les meilleurs. Désavantage numérique, premier désavantage numérique, tout ça. Et vous autres, vous pensez que ça, à un moment donné, ça va changer? Celui qui va jouer le plus de minutes, qui va jouer contre les meilleurs trios adverses, à un moment donné, ça va être Lane Hudson? J'attends vos arguments.
Tu commences, ça?
Ah, je vais y aller avec le patriarche.
Ben, il faut rien ôter à Goulet. Goulet, là, il a de la graine de capitaine, c'est un leader, il est vraiment bon, il est fiable, il est capable de relancer l'attaque, il est solide, il donne un bon coup d'épaule, mais honnêtement, Lane Hudson, c'est une bébite à part. Il est nettement meilleur que je pensais en défensive, il a un bon bâton, il a une bonne dynamique. Tu sais, s'il arrive avec un gros comme Leon Draisaitl, il sortira peut-être pas avec la rondelle, mais Draisaitl sortira peut-être pas non plus de façon franche et claire. Il est capable d'en prendre des minutes. C'est un vrai corps arrière, ce gars-là. Puis, tu parles de numéro un, il va être le pilote de l'avantage numérique, il va jouer son tour. C'est du 25 minutes par match. Donc, moi, c'est ça ma réponse. C'est ça mon explication.
Je parlais même avec Bob aujourd'hui, puis les deux, on souhaitait voir Goulet sur une deuxième vague pour pas qu'il devienne un spécialiste défensif.
Mm-hmm. Bon,
j'étais en accord avec Bob là-dessus. Vas-y, Pat, essaye de. Sors de ta garderie, là, puis essaie de nous impressionner. Là. Lane Hudson avant Goulet.
Ben, moi, en fait, je pense que c'est un A, un B, on s'entend. Il n'y a pas vraiment de nuance dans les choix de réponse que vous nous donnez.
Non.
mais Lane Hudson, en ce moment, là, joue déjà 20-25 minutes par match. alors qu'il a à peine 25 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Il est déjà dans le, comme j'en parlais hier dans mes blocs à RDS, il est déjà dans le top 5 dans tellement de catégories à travers les défenseurs dans la Ligue nationale. Il a seulement 20 ans. S'il devient pas un défenseur numéro 1, avec tout ce qu'il nous démontre, on va être vraiment surpris, là. Donc, je pense que Lane Hutson a vraiment tout devant lui pour accomplir ce rôle-là. Mais ceci dit, Caden Goulet, je pense que c'est un gars qui est extrêmement sous-estimé. Il est très important pour le Canadien. Puis quand ils vont être en série, ça va être un défenseur extrêmement important aussi. Il va peut-être même être le numéro un, c'est clair. Là, parce
il y a
que
encore
Caden
du coffre à prendre. Il y a encore, tu sais, de la masse à prendre.
Ben, puis c'est pour ça que je suis d'accord avec toi. J'aimerais ça, moi aussi, le voir en deuxième vague parce qu'on ne l'a jamais vraiment utilisé en avantage numérique. Puis je pense que c'est un excellent patineur. Il a un bon tir. Il est capable de marquer des buts. Il nous l'a démontré à quelques occasions. Je pense que ça serait intéressant. Ceci dit, la façon dont on travaille présentement, c'est rare que les deux vagues ont autant de temps. Donc, je sais pas comment les choses vont se développer à ce niveau-là, mais Caden Goulet en série, ça va être un must. C'est un gars qui va frapper, qui va jouer dur, qui va aller jouer des grosses minutes contre les gros trios adverses. Donc, je pense que dans les deux cas, là, on est en voiture.
Okay. C'est un excellent leader aussi, honnêtement. Ah, vraiment, il y a vraiment de la graine de capitaine.
Ouais, je l'adore. Puis si jamais vous en parlez avec André Tourigny, réservez-vous une demi-heure. C'est le temps à peu près que ça y prend pour vous parler de.
Ouais, ben j'avais pas mal jasé avec André en Tchéquie au championnat du monde à Prague. Et il m'avait dit Goulet, à ses yeux, c'est chez Weber sans le lancer frapper. Ça résume assez bien, je pense.
Oui. Ouais. Il était déjà en amour avec lui au championnat mondial junior aussi à Edmonton. Il l'a dirigé là-bas. Goulet était là. Barron était là d'ailleurs aussi. Il avait joué contre Cole Caulfield. Puis Goulet, quel leader. Puis vraiment un chic type aussi.
Moi, j'avais appris. Vraiment agréable à Goulet. Vraiment, je l'avais appris à la dure. Moi, j'étais fâché parce que je souhaitais qu'on prenne Hendrix Lapierre. Puis c'était André qui m'avait appelé. Laisse-moi te parler de Caden Goulet. Après moi, tu vas l'aimer. Les gars, vous avez été extraordinaires. Je vais me servir de Claude via la messagerie texte pour résumer ma pensée. Deux bons connaisseurs de hockey, je les adore, Luc et Patrick. C'est Claude Landry de New Richmond qui nous a écrit ça.
Ah, New Richmond, hey.
Vous êtes planétaire, les gars.
Ben, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Je le répète, c'est Luc qui m'a tout montré.
Je sais. Les gars, on peut vous entendre régulièrement, bien sûr, RDS. On peut entendre Pat dès demain dans le tailgate avec Greg Langto et Luc Gélina régulièrement dans le show du matin, le club du matin. Manquez-les pas. Merci, les gars, de vous être prêtés au jeu, puis bon week-end.
Ben, bon week-end, puis Pat,
merci beaucoup.
On est juste deux, je l'appelle la Rockstar. Fait que bon week-end à New York, ma Rockstar.
Hey, merci, partner.
Salut. Bon week-end dans le bois, Martin.
Salut, ouais, dans le bois. Salut, les gars.
Salut.
C'est le fun d'entendre des nouvelles voix.